France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 85, à l'occasion du centenaire de la mort de Victor Hugo, France Culture et le Théâtre National de Chaillot empruntaient à Aragon le titre de son livre de 1952 « Avez-vous lu Victor Hugo ?» pour une série présentée par Antoine Vitez et Marie-Étienne, une série de six lectures publiques d'extraits de l'œuvre de Hugo, choisies et lues par différentes personnalités. Oui, la question vaut la peine d'être posée. Avons-nous lu Victor Hugo ? Le lit-on aujourd'hui davantage qu'on ne le lisait en 52 ou en 85 ? On ne le parierait pas, même s'il est plus populaire que jamais peut-être, et qu'il n'est plus dédaigné ou condamné comme il le fut en d'autres temps. Alors, comment convaincre ceux qui ne l'ont jamais fait de lire Hugo ? Peut-être en leur donnant à entendre ici, Hugo lu, fort bien, à Chaillot par Alain Badiou, qui, en préambule, en soulignait l'une des caractéristiques essentielles, l'acuité de son intelligence, de son observation et de son sens historique et politique. Avez-vous lu Hugo avec Alain Badiou, cinquième d'une série de six émissions, diffusée la première fois le 27 mai 1985 sur France Culture.
Avez-vous lu Victor Hugo ? Une production du Théâtre National de Chaillot et de France Culture.
Avez-vous lu Victor Hugo ? Cette série de lectures constituera une anthologie arbitraire et fragmentaire de l'œuvre immense du poète.
Aujourd'hui, l'anthologie fragmentaire de Alain Badiou.
La voix de qui va lire nous intéressera autant que son choix, et peu importe qu'il ne soit pas diseur de profession.
Lu par Alain Badiou.
Hugo m'accompagne depuis l'école. J'y reconnais le poète qui a préféré son siècle et n'a pas méconnu qu'il était celui des révolutions populaires. C'est à cette intersection d'un rapport frontal à l'histoire et d'une imagerie légendaire que je repère en Hugo la force d'un poète national. Il est juste de le lire dans ce lieu, le palais de Chaillot, qui est à la fois un édifice républicain et une monstruosité inhabitable qu'on dirait édifiée par une race disparue. Alain Badiou.
Mercredi 13 mars, 18h30, Théâtre National de Chaillot, Grand Foyer.
Alain Badiou lit Les Misérables, aphorismes. La légende des siècles, fragment poétique. Les Misérables, la barricade du faubourg Saint-Antoine. La charybde du faubourg Saint-Antoine, la Scylla du faubourg du Temple. La légende des siècles, fragment poétique. Le petit roi de Galice. Les Misérables, la mort du père Mabeuf, le drapeau, deuxième acte. L'aigle du casque, la légende des siècles, fragment poétique. Les Misérables, bref fragment. La légende des siècles, le crapaud. Les Misérables, fragments. Les Misérables, fait d'où l'histoire sort et que l'histoire ignore. Fin du chapitre.
Les textes que je vais lire sont quelquefois de simples vers isolés ou des groupes de vers. Quelquefois des phrases ou des maximes de Hugo, quelquefois des passages plus développés ou des poèmes entiers. Mais j'ai donné la préférence à de brefs passages, ou quelquefois même à des aphorismes de Hugo, un peu pour lutter contre la tendance à ne considérer Hugo que comme un rhétoricien et à nier ce qui est à mon avis une de ses caractéristiques essentielles, c'est-à-dire l'acuité de son intelligence, de son observation et de son sens historique et politique. Je veux aussi profiter de l'occasion qui m'a été donnée pour remercier Annie Otenac, parce que sa passion pour Hugo en général et pour Les Misérables en particulier a fait qu'elle m'a aidé dans le choix des textes que je vais vous lire ce soir. Ce qui est certain, c'est que, d'ordinaire, après les vainqueurs viennent les voleurs. Nous avons tous ainsi, dans notre passé, un galetas bleu. Les contrefaçons du passé prennent de faux noms et s'appellent volontiers l'avenir. À cette heure où tant d'hommes ont le front bas et l'âme peu haute, parmi tant de vivants ayant pour morale de jouir, et occupé des choses courtes et difformes de la matière, quiconque s'exile nous semble vénérable. Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Regardez à travers le peuple et vous apercevrez la vérité. L'arrière-pensée du pouvoir rencontre dans la sape l'arrière-pensée du peuple. L'incubation des insurrections donne la réplique à la préméditation des coups d'État. Le partage de la Pologne est un théorème dont tous les forfaits politiques actuels sont des corollaires. Le scepticisme, cette carie de l'intelligence. Il se fait beaucoup de grandes actions dans les petites luttes. Nos chimères sont ce qui nous ressemble le mieux. Les faits sont des maréchaux des logis et des fourriers qui ne font que préparer le logement au principe. Le fait, même le plus nécessaire en apparence, même le mieux accepté des contemporains, s'il n'existe que comme fait, et s'il ne contient que trop peu de droit, ou point du tout de droit, est destiné infailliblement à devenir, avec la durée du temps, difforme, immonde, peut-être même monstrueux. Sitôt qu'une révolution a fait côte, les habiles dépècent l'échouement. Les habiles, dans notre siècle, se sont décernés à eux-mêmes la qualification d'hommes d'État. Si bien que ce mot « homme d'État » a fini par être un peu un mot d'argot. Qu'on ne l'oublie pas, en effet, là où il n'y a qu'habileté, il y a nécessairement petitesse. Dire « les habiles », cela revient à dire « les médiocres ». De même que dire « les hommes d'État », cela équivaut quelquefois à dire « les traîtres ». Qui arrête les révolutions à mi-côte ? La bourgeoisie. Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie est l'intérêt arrivé à satisfaction. On a voulu à tort faire de la bourgeoisie une classe. La bourgeoisie est tout simplement la portion contentée du peuple. Le bourgeois, c'est l'homme qui a maintenant le temps de s'asseoir. Une chaise n'est pas une caste. Les révolutions ont le bras terrible et la main heureuse. Elles frappent ferme et choisissent bien. Il y a dans les révolutions des nageurs à contre-courant, ce sont les vieux partis. Une révolution est un retour du factice au réel. Le faubourg Saint-Antoine, cette poudrière de souffrance et d'idées. Les femmes jouent avec leur beauté comme les enfants avec leur couteau. Les jacqueries sont des tremblements de peuple. La misère d'un enfant intéresse une mère, la misère d'un jeune homme intéresse une jeune fille, la misère d'un vieillard n'intéresse personne. C'est de toutes les détresses la plus froide. L'émeute raffermit les gouvernements qu'elle ne renverse pas. Elle éprouve l'armée, elle concentre la bourgeoisie, elle étire les muscles de la police. Elle constate la force de l'ossature sociale. C'est une gymnastique, c'est presque de l'hygiène. Le pouvoir se porte mieux après une émeute comme l'homme après une friction. Le vent des révolutions n'est pas maniable. L'insurrection est l'accès de fureur de la vérité. Pour que le cèdre altier soit dans son droit, il faut le consentement du brin d'herbe. Chair de la femme, argile idéale, ô merveille. La divine tortue, aux yeux toujours ouverts, porte l'éléphant blanc qui porte l'univers. Pour un roucoulement de foudre à l'horizon. La terre avait une âme, et les dieux l'ont tuée. Hélas, dit le torrent, hélas, dit la nuée, les vagues voix du soir murmurent, oublions, l'absence des géants attriste les lions. Si tu n'opposes la fermeté de l'homme aux trahisons des choses. Nous sommes les marcheurs de la foudre et de l'ombre. Six mille arbres humains saignaient sur leurs amours. Le fleuve à grand bruit roule un flot rapide et jaune. Mais tout le grand ciel bleu n'emplirait pas mon cœur. Le marbre obscur s'émeut dans la nuit infinie. D'âcres parfums qui font végéter le caillou. Le vent, sur nos plateaux et sur nos longues rampes, mêle l'horizon vague et les murs et les toits et les tours aux frissons vertigineux des bois. Et nos blancs escaliers, nos porches, nos arcades flottent dans le nuage écumant des cascades. C'est dans nos bras que n'a jamais touché la faux que cette reine a fait ses songes triomphaux. Nos parfums ont parfois conseillé des supplices. De ces enivrements, nos fleurs furent complices. Elle tient un miroir qui n'a jamais souri et se met des anneaux aux doigts et sous ses voiles peigne ses longs cheveux d'où tombent des étoiles. Sostrate cnidien me fit pour suppléer sur les eaux dans les nuits fécondes en désastre, à l'inutilité magnifique des astres. Rouge comme la peau d'un taureau qu'on écorche, la ville semble un rêve aux lueurs de ma torche. La terre a vu, jadis, errer des paladins.
Les Misérables, aphorismes. La légende des siècles, fragment poétique. Les Misérables, la barricade du faubourg Saint-Antoine.
La barricade Saint-Antoine était monstrueuse. Elle était haute de 3 étages et large de 700 pieds. Elle barrait d'un angle à l'autre la vaste embouchure du faubourg, c'est-à-dire 3 rues. Ravinée, déchiquetée, dentelée, hachée, crénelée d'une immense déchirure, contrebutée de monceaux qui étaient eux-mêmes des bastions, poussant des caps ça et là, puissamment adossée aux 2 grands promontoires de maisons du faubourg, elle surgissait comme une levée cyclopéenne au fond de la redoutable place qui a vu le 14 juillet. 19 barricades s'étageaient dans la profondeur des rues derrière cette barricade mère. Rien qu'à la voir, on sentait dans le faubourg l'immense souffrance agonisante, arrivée à cette minute extrême où une détresse veut devenir une catastrophe. De quoi était faite cette barricade ? De l'écroulement de 3 maisons à 6 étages, démolies exprès, disaient les uns. Du prodige de toutes les colères, disaient les autres. Elle avait l'aspect lamentable de toutes les constructions de la haine, la ruine. On pouvait dire qui a bâti cela. On pouvait dire aussi qui a détruit cela. C'était l'improvisation du bouillonnement. Tiens, cette porte, cette grille, cet auvent, ce chambranle, ce réchaud brisé, cette marmite fêlée, donnez tout, jetez tout, poussez, roulez, piochez, démantelez, bouleversez, écroulez, tout. C'était la collaboration du pavé, du moellon, de la poutre, de la barre de fer, du chiffon, du carreau défoncé, de la chaise dépaillée, du trognon de chou, de la loque, de la guenille et de la malédiction. C'était grand et c'était petit. C'était l'abîme parodié sur place par le tohu-bohu, la masse près de l'atome, le pan de mur arraché et l'écuelle cassée, une fraternisation menaçante de tous les débris. Sisyphe avait jeté là son rocher et Job son tesson. En somme, terrible. C'était l'acropole des va-nu-pieds. Des charrettes renversées accidentaient le talus. Un immense haquet était étalé en travers, l'essieu vers le ciel, et semblait une balafre sur cette façade tumultueuse. Un omnibus hissait gaiement à force de bras tout au sommet de l'entassement, comme si les architectes de cette sauvagerie eussent voulu ajouter la gaminerie à l'épouvante, offrait son timon dételé à on ne sait quels chevaux de l'air. Cet amas gigantesque, alluvion de l'émeute, figurait à l'esprit un ossa sur pélion de toutes les révolutions. 93 sur 89, le 9 Thermidor sur le 10 août, le 18 Brumaire sur le 21 janvier, Vendémiaire sur Prairial, 1848 sur 1830. La place en valait la peine, et cette barricade était digne d'apparaître à l'endroit même où la Bastille avait disparu. Si l'océan faisait des digues, c'est ainsi qu'il les bâtirait. La furie du flot était empreinte sur cet encombrement difforme. Quel flot ? La foule. On croyait voir du vacarme pétrifié. On croyait entendre bourdonner au-dessus de cette barricade, comme si elles eussent été là sur leur ruche, les énormes abeilles ténébreuses du progrès violent. Était-ce une broussaille ? Était-ce une bacchanale ? Était-ce une forteresse ? Le vertige semblait avoir construit cela à coups d'aile. Il y avait du cloaque dans cette redoute et quelque chose d'olympien dans ce fouillis. On y voyait dans un pêle-mêle plein de désespoir des chevrons de toit, des morceaux de mansarde avec leur papier peint, des châssis de fenêtres avec toutes leurs vitres plantées dans les décombres, attendant le canon, des cheminées descellées, des armoires, des tables, des bancs, un sang dessus-dessous hurlant, et ces 1000 choses indigentes, rebuts même du mendiant, qui contiennent à la fois de la fureur et du néant. On eût dit que c'était le haillon d'un peuple, haillon de bois, de fer, de bronze, de pierre, et que le faubourg Saint-Antoine l'avait poussé là à sa porte d'un colossal coup de balai, faisant de sa misère sa barricade. Des blocs pareils à des billots, des chaînes disloquées, des charpentes à tasseaux et en forme de potence, des roues horizontales sortant des décombres, amalgamaient à cet édifice de l'anarchie la sombre figure des vieux supplices soufferts par le peuple. La barricade Saint-Antoine faisait arme de tout. Tout ce que la guerre civile peut jeter à la tête de la société sortait de là. Ce n'était pas du combat, c'était du paroxysme. Les carabines qui défendaient cette redoute, parmi lesquelles il y avait quelques espingoles, envoyaient des miettes de faïence, des osselets, des boutons d'habits, jusqu'à des roulettes de table de nuit, projectiles dangereux à cause du cuivre. Cette barricade était forcenée. Elle jetait dans les nuées une clameur inexprimable. À de certains moments, provoquant l'armée, Elle se couvrait de foule et de tempête. Une cohue de têtes flamboyantes la couronnait. Un fourmillement l'emplissait. Elle avait une crête épineuse de fusils, de sabres, de bâtons, de haches, de piques et de baïonnettes. Un vaste drapeau rouge y claquait dans le vent. On y entendait les cris du commandement, les chansons d'attaque, des roulements de tambour, des sanglots de femmes et l'éclat de rire ténébreux des mœurs la faim. Elle était démesurée et vivante. Et comme du dos d'une bête électrique, il en sortait un pétillement de foudre. L'esprit de révolution couvrait de son nuage ce sommet où grondait cette voix du peuple qui ressemble à la voix de Dieu. Une majesté étrange se dégageait de cette titanique hôtée de gravats. C'était un tas d'ordures et c'était le Sinaï.
Les Misérables, la barricade du Faubourg Saint-Antoine. La légende des siècles, fragment poétique.
Comme sur ses deux pieds de devant l'ours s'abat, après s'être dressé pour étreindre le pâtre, ainsi Rostaba tombe. Et sur son cou d'albâtre, Laïs nu avait moins d'escarboucles luisants que ces fauves rochers n'ont de flaques de sang. Il tombe. La bruyère écrasée est remplie de cette monstrueuse et vaste panoplie. Relevé en tombant, sa chemise d'acier laisse nu son poitrail de prince carnassier, cadavre au ventre horrible, aux hideuses mamelles. Et l'on voit le dessous de ses noires semelles. Laveuse, qui dès l'heure où l'Orient se dort, chantait, battant du linge aux fontaines d'Andorre, et qui fait blanchir des toiles sous le ciel, chevrier, qui roulait sur le jaïs qui vèle, dans les nuages gris votre hutte isolée, muletier, qui poussait de vallée en vallée vos mules sur les ponts que César éleva. Sait-on ce que, là-bas, le vieux mont Corcova regarde par-dessus l'épaule des collines ? Le combat finissait. Tous ces monts radieux ou lugubres, jadis hantés des demi-dieux, s'éveillaient, étonnés, dans le blanc crépuscule. Et, regardant Roland, se souvenait d'Hercule. Plus d'un fan, 9 étaient tombés, 1 avait fui. C'était Ruy le subtil. Mais la bande sans lui avait continué, car rien n'irrite comme la honte et la fureur de combattre un seul homme. Durandal a tué ses coquins, ses bréchants, avait jonché de mort la terre, et fait ce champ plus vermeil qu'un nuage où le soleil se couche. Elle s'était rompue en ce labeur farouche, ce qui n'empêchait pas Roland de s'avancer. Les bandits, le croyant prêt à recommencer, tremblant comme des bœufs qu'on ramène à l'étable, à chaque mouvement de son bras redoutable, reculaient, lui montrant de loin leur coutelas. Et pas à pas, Roland, sanglant, terrible, là, les chassait devant lui parmi les fondrières. Et n'ayant plus d'épée, il leur jetait des pierres.
La légende des siècles, fragment poétique. Les Misérables, la mort du père Mabeuf, le drapeau, deuxième acte.
Quand chacun était allé prendre sa place au combat, il n'était plus resté dans la salle basse que Javert, lié au poteau. Un insurgé, le sable nu, veillant sur Javert, et lui, Mabeuf. Au moment de l'attaque à la détonation, la secousse physique l'avait atteint et comme réveillé. Il s'était levé brusquement, il avait traversé la salle, et à l'instant où Enjolras répéta son appel « Personne ne se présente !», on vit le vieillard apparaître sur le seuil du cabaret. Sa présence fit une sorte de commotion dans le groupe. Un cri s'éleva. C'est le votant, c'est le conventionnel, c'est le représentant du peuple. Il est probable qu'il n'entendait pas. Il marcha droit à Enjolras. Les insurgés s'écartaient devant lui avec une crainte religieuse. Il arracha le drapeau à Enjolras, qui reculait pétrifié. Et alors, sans que personne osât ni l'arrêter, ni l'aider, ce vieillard de 80 ans, la tête branlante, le pied ferme, se mit à gravir lentement l'escalier de pavé pratiqué dans la barricade. Cela était si sombre et si grand que tous autour de lui crièrent « chapeau bas ». À chaque marche qu'il montait, c'était effrayant. Ses cheveux blancs, sa face décrépite, son grand front chauve et ridé, ses yeux caves, sa bouche étonnée et ouverte, son vieux bras levant la bannière rouge surgissait de l'ombre et grandissait dans la clarté sanglante de la torche, et l'on croyait voir le spectre de 93 sortir de terre, le drapeau de la terreur à la main. Quand il fut au haut de la dernière marche, quand ce fantôme tremblant et terrible, debout sur ce monceau de décombres, en présence de 1200 fusils invisibles, se dressa en face de la mort, et comme s'il était plus fort qu'elle, toute la barricade eut dans les ténèbres une figure surnaturelle et colossale. Il y eut un de ces silences qui ne se font qu'autour des prodiges. Au milieu de ce silence, le vieillard agita le drapeau rouge et cria « Vive la Révolution ! Vive la République ! Fraternité, égalité et la mort !» On entendit de la barricade un chuchotement bas et rapide, pareil au murmure d'un prêtre pressé qui dépêche une prière. C'était probablement le commissaire de police qui faisait les sommations légales à l'autre bout de la rue. Puis la même voix éclatante qui avait crié « Qui vive ?» cria « Retirez-vous » Monsieur Babeuf, blême, hagard, les prunelles illuminées des lugubres flammes de l'égarement, leva le drapeau au-dessus de son front et répéta « Vive la République !»« Feu !» dit la voix. Une seconde décharge pareille à une mitraille s'abattit sur la barricade. Le vieillard fléchit sur ses genoux, puis se redressa, laissa échapper le drapeau et tomba en arrière à la renverse sur le pavé comme une planche, tout de son long et les bras en croix. Des ruisseaux de sang coulèrent de dessous lui. Sa vieille tête, pâle et triste, semblait regarder le ciel. Une de ces émotions supérieures à l'homme, qui font qu'on oublie même de se défendre, saisit les insurgés, et ils s'approchèrent du cadavre avec une épouvante respectueuse. « Quels hommes que ces régicides !» dit Enjolras. Courfeyrac se pencha à l'oreille d'Enjolras. « Ceci n'est que pour toi, et je ne veux pas diminuer l'enthousiasme, mais ce n'était rien moins qu'un régicide. Je l'ai connu, il s'appelait le père Mabeuf. Je ne sais pas ce qu'il avait aujourd'hui. Mais c'était une brave ganache. Regarde-moi sa tête. » Tête de ganache et cœur de Brutus, répondit Enjolras. Puis il éleva la voix. Citoyens, ceci est l'exemple que les vieux donnent aux jeunes. Nous hésitions, il est venu. Nous reculions, il a avancé. Voilà ce que ceux qui tremblent de vieillesse enseignent à ceux qui tremblent de peur. Cet aïeul est auguste devant la patrie. Il a eu une longue vie et une magnifique mort. Maintenant, abritons le cadavre. Que chacun de nous défende ce vieillard mort comme il défendrait son père vivant et que sa présence au milieu de nous fasse la barricade imprenable. Un murmure d'adhésion morne et énergique suivit ces paroles. Enjolras se courba, souleva la tête du vieillard et farouche le baisa au front, puis lui écartant les bras et maniant ce mort avec une précaution tendre, comme s'il eût craint de lui faire du mal, il lui ôta son habit, en montra à tous les trous sanglants et dit « Voilà maintenant notre drapeau. »
Les Misérables, la mort du père Mabeuf. La légende des siècles, fragment poétique.
La mélodie encore quelques instants se traîne sous les arbres bleuis par la lune sereine, puis tremble, puis expire. Et la voix qui chantait s'éteint comme un oiseau se pose. Tout se tait. Que fait Sennachérib, roi plus grand que le sort? Le roi Sennachérib fait ceci qu'il est mort. Tiphaine accourt, s'élance, tombe sur l'enfant comme un loup dans les cirques romains. Et d'un revers de hache, il abat ses deux mains qui, dans l'ombre, élevaient vers les cieux la prière. Puis par ses blonds cheveux dans une fondrière, il le traîne. Et riant de fureur, haletant, il tua l'orphelin et dit « Je suis content ». Ainsi rit dans son antre infâme la Tarasque. Alors, l'aigle d'airain qu'il avait sur son casque et qui, calme, immobile et sombre, l'observait, cria. Cieux étoilés, montagnes que revêt l'innocente blancheur des neiges vénérables, ô fleuves, ô forêts, cèdres, sapins, érables, je vous prends à témoin que cet homme est méchant. Et cela dit, ainsi qu'un piocheur fouille un champ, comme avec sa cognée un pâtre brise un chêne, il se mit à frapper à coups de bec Tiphaine. Il lui creva les yeux, il lui broya les dents, il lui pétrit le crâne en ses ongles ardents, sous l'armée d'où le sang sortait comme d'un crible, le jeta mort à terre et s'envola, terrible. La ruine et l'enfance ont de secrets accords, car le temps sombre y met ce qui reste des morts. De partout, des hanaps, du buffet, du dressoir, des plateaux où les paons ouvrent leurs larges queues, des vaisselles où brûle un filtre aux lueurs bleues, des verres d'hypocras et de vin écumant, s'élève une vapeur gaie, ardente, enflammée, et les âmes des morts sont dans cette fumée. Et que le ciel soit noir ou que le ciel soit bleu, Caïn tuant Abel est la stupeur de Dieu. Béant, il regardait passer comme un essaim de molle nudité sans fin continuer toutes ces déités que nous nommons nuées. La nuit, et voilà que commence le noir déprofondis de l'océan immense. Le marin tremble au flot livré. Misérere, dit l'homme, et dans le ciel qui gronde, l'air dit misérere. Misérere, dit l'onde, misérere, misérere. Autrefois, j'ai connu Ferdousi dans Mysore. Il semblait avoir pris une flamme à l'aurore pour s'en faire une aigrette et se la mettre au front. Il ressemblait au roi que n'atteint nul affront, portait le turban rouge où le rubis éclate et traversait la ville habillé d'écarlate. Je le revis 10 ans après, vêtu de noir, et je lui dis « Ô toi qu'on venait jadis voir comme un homme de pourpre erré devant nos portes, toi le seigneur vermeil, d'où vient donc que tu portes cet habit noir qui semble avec de l'ombre teint ?»« C'est, me répondit-il, que je me suis éteint. » Les grands amphictyons songeaient en cercle assis. Millions, millions et millions d'étoiles, je suis dans l'ombre affreuse et sous les sacrés voiles, la splendide forêt des constellations. C'est moi qui suis l'amas des yeux et des rayons, l'épaisseur inouïe et morne des lumières, encore tout débordant des effluves premières, mon éclatant abîme est votre source à tous. Oh, les astres d'en bas, je suis si loin de vous que mon vaste archipel de splendeurs immobiles, que mon tas de soleil naît pour vos yeux débiles au fond du ciel, désert lugubre où meurt le bruit qu'un peu de cendre rouge éparse dans la nuit.
Alain Badiou lisait des fragments poétiques de la Légende des siècles.
Les grands périls ont cela de beau qu'ils mettent en lumière la fraternité des inconnus. La guerre civile, qu'est-ce à dire? Est-ce qu'il y a une guerre étrangère? Est-ce que toute guerre entre les hommes n'est pas la guerre entre frères? La guerre ne se qualifie que par son but. Il n'y a ni guerre étrangère, ni guerre civile, il n'y a que la guerre injuste et la guerre juste. Une foule se totalise aisément en obéissance. Il faut les remuer, les pousser, rudoyer les hommes par le bienfait même de leur délivrance, leur blesser les yeux par le vrai, leur jeter la lumière à poignées terribles. Il faut qu'ils soient eux-mêmes un peu foudroyés par leur propre salut. Une énorme forteresse de préjugés, de privilèges, de superstitions, de mensonges, d'exactions, d'abus, de violences, d'iniquités, de ténèbres, est encore debout sur le monde avec ses tours de haine. Il faut la jeter bas. Il faut faire crouler cette masse monstrueuse. Rien n'est plus imminent que l'impossible. De même que les incendies éclairent toute la ville, les révolutions éclairent tout le genre humain. Il y a les insurrections acceptées, qui s'appellent révolutions. Il y a les révolutions refusées, qui s'appellent émeutes. Une insurrection qui éclate, c'est une idée qui passe son examen devant le peuple. Si le peuple laisse tomber sa boule noire, l'idée est fruit sec, l'insurrection est échauffourée.
Les Misérables, bref fragment. La légende des siècles, le crapaud.
Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses. C'était la fin d'un jour d'orage. Et l'Occident changeait l'ondée en flamme en son brasier ardent. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud regardait le ciel, bête éblouie. Grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Oh, pourquoi la souffrance? Et pourquoi la laideur? Hélas, le bas-empire est couvert d'augustules, les Césars de forfaits, les crapauds de pustules, comme le pré de fleurs et le ciel de soleil. Les feuilles s'empourpraient dans les arbres vermeils, l'eau miroitait mêlée à l'herbe dans l'ornière, le soir se déployait ainsi qu'une bannière, l'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli, tout s'apaisait dans l'air, sur l'onde, et plein d'oubli, le crapaud sans effroi, sans honte, sans colère, doux, regardait la grande auréole solaire. Peut-être le maudit se sentait-il béni. Pas de bête qui n'ait un reflet d'infini. Pas de prunelle abjecte et vile que ne touche l'éclair d'en haut, parfois tendre et parfois farouche. Pas de monstre chétif, louche, impur, chassieux qui n'ait l'immensité des astres dans les yeux. Un homme qui passait vit la hideuse bête et frémissant lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme avec une fleur au corset vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux et la femme était belle. Vinrent quatre écoliers sereins comme le ciel. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre où la mère a servi peut commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse et l'aube dans les yeux. On a sa mère, on est des écoliers joyeux. De petits hommes gais, respirant l'atmosphère, à plein poumon, aimés, libres, contents. Que faire, sinon de torturer quelque être malheureux ? Le crapaud se traînait au fond du chemin creux. C'était l'heure où des champs les profondeurs s'azurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Tuons ce vilain animal, et puisqu'il est si laid, faisons-lui bien du mal !» Et chacun d'eux, riant, l'enfant rit quand il tue, se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant le trou de l'œil crevé, blessant les blessures, ravi, applaudi du passant, car les passants riaient. Et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a pas même un râle. Et le sang, sang affreux de toutes parts coulait sur ce pauvre être ayant pour crime d'être laid. Il fuyait. Il avait une patte arrachée. Un enfant le frappait d'une pelle ébréchée. Et chaque coup faisait écumer ce proscrit qui, même quand le jour sur sa tête sourit, même sous le grand ciel, rampe au fond d'une cave. Et les enfants disaient « Est-il méchant ? Il bave !» Son front saignait, son œil pendait. Dans le genêt et la ronce, effroyable à voir, il cheminait. On eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre. Oh, la sombre action, empirer la misère, ajouter de l'horreur à la difformité. Disloqué de caillou en caillou cahoté, il respirait toujours. Sans abri, sans asile, il rampait. On eût dit que la mort difficile le trouvait si hideux qu'elle le refusait. Les enfants le voulaient saisir dans un lacet, mais il leur échappa, glissant le long des haies. L'ornière était béante, il y traîna ses plaies et s'y plongea sanglant, brisé, le crâne ouvert, sentant quelque fraîcheur dans ce cloaque vert, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, avec le printemps sur la joue, blonds, charmants, ne s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois et les grands aux petits criaient « Viens voir, dis donc Adolphe, dis donc Pierre, allons pour l'achever prendre une grosse pierre. » Tous ensemble, sur l'être au hasard exécré, ils fixaient leurs regards et le désespéré regardait s'incliner sur lui ses fronts horribles. Hélas, ayons des buts, mais n'ayons pas de cible. Quand nous visons un point de l'horizon humain, ayons la vie et non la mort dans notre main. Tous les yeux poursuivaient le crapaud dans la vase. C'était de la fureur et c'était de l'extase. Un des enfants revint apportant un pavé, pesant, mais pour le mal aisément soulevé, et dit « Nous allons voir comment cela va faire. » Or, en ce même instant, juste à ce point de terre, le hasard amenait un chariot très lourd, traîné par un vieux âne éclopé, maigre et sourd. Cet âne harassé, boiteux et lamentable, après un jour de marche, approchait de l'étable. Il roulait la charrette et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Cette bête marchait battue, exténuée, les coups l'enveloppaient ainsi qu'une nuée. Il avait dans ses yeux, voilés d'une vapeur, cette stupidité qui peut-être est stupeur. Et l'ornière était creuse, et si pleine de boue, et d'un versant si dur, que chaque tour de roue était comme un lugubre et rauque arrachement. Et l'âne allait geignant, et l'ânier blasphémant, la route descendait et poussait la bourrique. L'âne songeait passif, sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas. Les enfants, entendant cette roue et ce pas, se tournèrent bruyants et virent la charrette. « Ne mets pas le pavé sur le crapaud, arrête » crièrent-ils. « Vois-tu, la voiture descend et va passer dessus. C'est bien plus amusant. » Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière, où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud. Et triste, hélas, penché sur un plus triste, lourd, rompu, morne, écorché, il sembla le flairer avec sa tête basse. Ce forçat, ce damné, ce patient fit grâce. Il rassembla sa force éteinte, et roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui lui criait « Avance !» maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, avec sa lassitude acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, hagard, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre ce misérable, puis sous un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, lâchant la pierre échappée à sa main, un des enfants, celui qui conte cette histoire, sous la voûte infinie à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Sois bon ». Bonté de l'idiot, diamant du charbon, sainte énigme, lumière auguste des ténèbres. Les célestes n'ont rien de plus que les funèbres. Si les funèbres, groupes aveugles et châtiés, songent, et n'ayant pas la joie, ont la pitié. Ô spectacle sacré, l'ombre secourant l'ombre, l'âme obscure venant en aide à l'âme sombre, le stupide attendri sur l'affreux se penchant, le damné bon faisant rêver l'élu méchant, l'animal avançant lorsque l'homme recule, dans la sérénité du pâle crépuscule, la brute par moments pense et sent qu'elle est sœur de la mystérieuse et profonde douceur. Il suffit qu'un éclair de grâce brille en elle pour qu'elle soit égale à l'étoile éternelle. Le baudet qui, rentrant le soir, surchargé, là, mourant, sentant saigner ses pauvres sabots plats, fait quelques pas de plus, s'écarte et se dérange pour ne pas écraser un crapaud dans la fange, cet âne abject, souillé, meurtri sous le bâton, est plus sain que Socrate et plus grand que Platon. Tu cherches, philosophe, ô penseur, tu médites. Veux-tu trouver le vrai sous nos brumes maudites? Crois, pleure, abîme-toi dans l'insondable amour. Quiconque est bon voit clair dans l'obscur carrefour. Quiconque est bon habite un coin du ciel. Ô sage! La bonté qui du monde éclaire le visage, la bonté ce regard du matin ingénu, la bonté pur rayon qui chauffe l'inconnu, instinct qui dans la nuit et dans la souffrance aime, et le trait d'union ineffable et suprême, qui joint dans l'ombre, hélas, si lugubre souvent, le grand ignorant, l'âne, à Dieu, le grand savant.
Les Misérables, fragments.
Il nous est impossible de ne pas admirer qu'ils réussissent ou non les glorieux combattants de l'avenir, les confesseurs de l'utopie. Même quand ils avortent, ils sont vénérables. Et c'est peut-être dans l'insuccès qu'ils ont le plus de majesté. La victoire, quand elle est selon le progrès, mérite l'applaudissement des peuples. Mais une défaite héroïque mérite leur attendrissement. L'une est magnifique, l'autre est sublime. Pour nous, qui préférons le martyr au succès, John Brown est plus grand que Washington, et Pisacane est plus grand que Garibaldi. Il faut bien que quelqu'un soit pour les vaincus. La mort sur la barricade ou la tombe dans l'exil, c'est pour le dévouement un en-cas acceptable. Le vrai nom du dévouement, c'est désintéressement. Que les abandonnés se laissent abandonner, que les exilés se laissent exiler, et bornons-nous à supplier les grands peuples de ne pas reculer trop loin quand ils reculent. Il ne faut pas, sous prétexte de retour à la raison, aller trop avant dans la descente. De temps en temps, les partis remettent des semelles neuves à leurs vieilles injures. En 1832, le mot « bousingot » faisait l'intérim entre le mot « jacobin » qui était éculé et le mot « démagogue », alors presque inusité et qui a fait depuis un si excellent service. Un jour, une douairière de la variété impertinente qui se croit spirituelle, adressant à Monseigneur Myriel cette saillie. « Monseigneur, on demande quand votre grandeur aura le bonnet rouge. »« Oh, voilà une grosse couleur, » répondit l'évêque. « Heureusement que ceux qui la méprisent dans un bonnet la vénèrent dans un chapeau.
Toujours extrait des Misérables, fait d'où l'histoire sort et que l'histoire ignore, fin du chapitre.
Je terminerai par ce texte. Ces hommes hérissés, qui dans les jours génésiaques du chaos révolutionnaire, déguenillés, hurlants, farouches, le casse-tête levé, la pique haute, se ruaient sur le vieux Paris bouleversé, que voulaient-ils ? Ils voulaient la fin des oppressions, la fin des tyrannies, la fin du glaive, le travail pour l'homme, l'instruction pour l'enfant, la douceur sociale pour la femme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le pain pour tous, l'idée pour tous, l'édénisation du monde, le progrès. Et cette chose sainte, bonne et douce, le progrès, poussée à bout, hors d'eux-mêmes, ils la réclamaient, terrible, demi-nue, la massue au poing, le rugissement à la bouche. C'étaient les sauvages, oui, mais les sauvages de la civilisation. Ils proclamaient avec furie le droit. Ils voulaient, fût-ce par le tremblement et l'épouvante, forcer le genre humain au paradis. Ils semblaient des barbares, et ils étaient des sauveurs. Ils réclamaient la lumière avec le masque de la nuit. En regard de ces hommes, farouches, nous en convenons, et effrayants, mais farouches et effrayants pour le bien, il y a d'autres hommes, souriants, brodés, dorés, enrubannés, constellés, en bas de soie, en plume blanche, en gants jaunes, en souliers vernis, qui accoudés à une table de velours au coin d'une cheminée de marbre, insistent doucement pour le maintien et la conservation du passé, du Moyen-Âge, du droit divin, du fanatisme, de l'ignorance, de l'esclavage, de la peine de mort, de la guerre, glorifiant à demi-voix et avec politesse le sabre, le bûcher et l'échafaud. Quant à nous, si nous étions forcés à l'option entre les barbares de la civilisation et les civilisés de la barbarie, nous choisirions les barbares.
Avez-vous lu Victor Hugo ? Une production du Théâtre National de Chaillot et de France Culture. Aujourd'hui, l'anthologie fragmentaire de Alain Badiou. Des extraits des Misérables, fragments poétiques de la légende des siècles, dont Le Crapaud. Avec la participation de Marie-Étienne et Antoine Vitez.
Cette émission a été diffusée la première fois le 27 mai 1985 sur France Culture.